Je vais commencer donc sur cette conférence. Alors il peut sembler incongru de parler de vocation humanitaire à l'époque des guerres de religion, mais je ne suis pas le premier au fond à en parler. Le tout premier à ma connaissance, c'est Alain Dufour, 1958, sur son livre « La guerre de 1589 », où il parle des ordonnances militaires, que je vais vous présenter tout de suite, en disant que c'est un véritable effort pour moraliser les gens de guerre. Et puis en 2008, il y a eu un article de Bernard Lescazes, intitulé « La protection des civils en cas de guerre à la fin du XVIe siècle », l'exemple genevois, et je cite, toujours à propos des ordonnances militaires, elles peuvent apparaître comme la première trace d'un droit humanitaire ayant pour but de protéger les populations civiles de certains effets d'un conflit armé. On voulait une guerre juste, légitime, mais si possible, propre. Alors, bien sûr, les ordonnances militaires de Genève ne sont pas les premières connues, il y en a bien avant en France. Il y avait les protestants français aussi au début des guerres de religion qui en ont fait, mais il y avait les rois de France avant. Donc il y a beaucoup de choses dans ces ordonnances qui sont tout à fait, je dirais, banales, bien connues. Puis il y a quelques points plus spécifiquement genevois et pour notre intérêt que je vais présenter. Il y a aussi tout ce qui va se passer à Genève en 1603 autour de leur application. Alors c'est là au fond ce qu'il y aura de plus neuf dans cet exposé, parce que c'est en discutant avec Bernard, qui avait lu toutes mes notes sur le journal des Aïcoladons, qui m'avait dit, mais oui, mais je vois que mon article de 2008, on aurait pu l'étendre à la période de 1603. Et effectivement, ça m'a donné l'idée de creuser un petit peu, notamment en lisant le registre du Conseil. Alors le registre du Conseil, c'est le grand registre où on a disons les décisions, puis un petit peu les débats du Conseil des 25, le Petit Conseil, le centre du pouvoir de la République, puis aussi les réunions qui sont mentionnées du Conseil des 200 et les décisions du 200. C'est les deux conseils qui forment au fond le gouvernement de la République, enfin, surtout les 25 avec les 4 syndics. Bon. Donc, commençons rapidement. Bon, ceci, c'est le 2 mai 1603, dans le registre du Conseil, en marge ordonnance de guerre. Ici ont été revues les ordonnances militaires et après les avoir corrigées, en quelques articles, a été arrêté qu'on les fasse imprimer et notifier à chaque revue, donc quand on paye les soldats tous les 15 jours, aux gens de guerre, qui prêteront serment d'y obéir. Bon, là, nous sommes en mai 1603, dans le registre du Conseil. Et alors, les ordonnances militaires genevoises, c'est les premières ordonnances militaires imprimées en Suisse. Je ne sais pas pour les manuscrits, hein, il y avait peut-être d'autres choses avant, ça je ne sais pas, mais imprimées en Suisse. Les secondes, j'ai vérifié, c'est Berne en 1615. Bon. Alors voilà à quoi ça ressemble, ces ordonnances militaires. En parenthèse, bon, on met en haut que ça a été ordonné le 2 avril 1589, revu le 9 mai 1603. Il n'y a pas le nom de l'imprimeur, mais grâce au bois que vous voyez ici, et en haut de cette page, je sais que c'est Gabriel Cartier, qui à cette année-là est l'imprimeur officiel de la République. Il y a plusieurs... Il y a plusieurs textes des Aïcoladons, c'est-à-dire bon, je ne sais pas, okay, qu'il a imprimé chez Gabriel Cartier. Ok, avant de juste de poursuivre, un ou deux petits renseignements, il va être question de Florin. En Florin, à l'époque, c'est une journée de travail pour un moissonneur. C'est aussi la solde de base d'un jour pour un arquebusier, donc le fantassin de base, hein, qui lui, du reste, doit payer sa nourriture, on ne la lui donne pas en plus. Hein, bon. Donc voilà, c'est un peu le salaire minimum, je dirais, pour un homme adulte. Il sera question des écus de France, l'écu seul, c'est 8 florins et demi. Et puis, vous savez que dans cette guerre de 1603, Genève n'aurait rien pu faire sans l'aide d'Henri IV qui paye, et qui paye cher. Par exemple, pour les 1000 soldats suisses qui vont arriver au début février 1603, il va payer 5000 écus 4 fois de suite, 4 mois ou un peu plus. Bon. Donc 20 000 écus pour payer la solde de 10 000 soldats plus les officiers. Bien. Alors, les ordonnances militaires, je vais tout de suite passer aux articles qui nous intéressent le plus. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qui sont bien connues par ailleurs. Là, je vais commencer par prendre le 25. Item est défendu à peine de punition exemplaire de ne piller ni fourrager sur le pays et ne prendre aucune chose que de gré à gré en payant. Bon, c'est relativement banal. Le problème est évidemment l'application de ce genre de choses. Je prends après le 27, 28, 29, il est question des partages de butin. Le 27 est intéressant parce qu'il dit que le public, c'est-à-dire la seigneurie, aura entière des butins, ainsi que les rançons des prisonniers, pour tout ce qui n'excède pas 1000 écus. Au-delà de 1000 écus, le gouvernement peut prendre plus. Bon. L'article 28 nous dit qu'il sera levé sur tous les butins et rançons, et ça, je l'ai vu nulle part ailleurs, hein, dans des ordonnances militaires, 10% versé dans une bourse de réserve, je lis, pour panser et traiter les pauvres malades blessés et dévalisés. Alors, ce sont les Genevois, hein, ce n'est pas les Savoyards ici. Mais 10% rien que pour des pauvres Genevois. Et puis ensuite, on va encore dire à l'article suivant que le maître de camp reçoit 5%, et puis à l'article 30 que les capitaines reçoivent, s'ils sont présents quand il y a une prise de butin, en quart, s'ils sont absents, 10%. Vous voyez les calculs qu'il faut faire pour savoir ce qui reste aux soldats. Alors il reste aux soldats entre 40 et 48% d'un butin. Mais alors après, il faut qu'ils se partagent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire 10 soldats ont pris un cheval, on vend le cheval, il leur en reste, bon, si leur capitaine était présent, il leur en reste 40%, donc chaque soldat a 4% du prix du cheval. Voilà à quoi ça ressemble. Pour les soldats, pour les capitaines, ces butins sont fondamentaux, c'est vraiment là où ils gagnent de l'argent. Et c'est là où ils ne sont pas contents quand les ordonnances militaires et le gouvernement genevois les contraignent trop. Quand dans ce texte on met puni de mort, c'est assez habituel. Quand on dit punition exemplaire, il faut se méfier. Hein. Quand on ne précise pas la punition, c'est plutôt un aveu de faiblesse. Donc il y a plusieurs fois ça. Bon. Vous comprenez que le problème va vraiment être de savoir si c'est bien appliqué. Dans la norme de l'époque, les capitaines recevaient normalement la solde de leurs soldats et la distribuaient. Alors, vous voyez toutes les magouilles possibles. On se passait les soldats d'une compagnie à l'autre, on les payait. Le capitaine recevait les doubles. Enfin, bon, je passe. À Genève, c'est pas possible. Et déjà en 1589, c'est l'autorité civile qui paye les soldats. Pour les butins, on contrôle. C'est pas remis au capitaine qui fait beaucoup de choses avec ses hommes. Bon, donc il y a des restrictions. Je passe ici et voici une carte que j'ai réalisée au demeurant. Vous savez que c'est extrêmement compliqué les territoires de la République à cette époque. Vous avez donc la souveraineté de Genève, vous avez les terres de Chapitre et de Saint-Victor, et puis vous avez quantité de villages et de lieux où les droits sont partagés avec la Savoie, avec le roi de France. Alors, ce qu'il faut préciser, une grosse différence avec la guerre de 1589, c'est que le pays de Gex est déjà français. Il est français dès le traité de Lyon de janvier 1601. Donc Genève, pour la première fois en 1601, a une frontière directe avec le roi de France et des tas de villages où les droits sont partagés avec le roi de France. Le roi de France a donc toute la rive droite du Rhône et il a aussi des droits sur certains villages de la rive gauche, notamment sur Aïr-la-Ville, sur Avuy, sur Chancy aussi. Mais on peut descendre le Rhône et il y a une quantité d'autres villages sur la rive gauche où le roi de France a des droits, c'est des territoires de la couronne, je pense à Seyssel par exemple. Bon. Alors, une des premières. Bon, quand il y a l'escalade, à la fin du mois de décembre, les Genevois ne sortent pas de la ville. Et au mois de janvier, pas tellement non plus. Hein. On établit assez vite un conseil de guerre, comme en 1589. Il est de 7 membres, des membres du petit conseil, 2 syndics, des membres du grand conseil, les 200. Bon. Mais on ne sait pour l'instant pas vraiment quelles sont leurs attributions. Et puis en fait, l'histoire commence réellement avec la première sortie. Attendez, avant que je vous mette la première sortie. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes au début février. La nuit du 1er au 2 février 1603, les Genevois savent que les troupes suisses arrivent à Genève. D'ici 48 heures, 72 heures, elles sont là. Il y a 1000 Suisses qui vont arriver, hein, 800 Bernois, 400 Zurichois. Donc, ils osent enfin sortir. Et non seulement ils osent sortir, mais ils veulent faire la peau de quelqu'un. Ils veulent se faire Vitraud de Basterga. Alors, Vitraud de Basterga, c'était un officier corse au service de la Savoie qui en a fait voir de toutes les couleurs aux Genevois. Ils veulent soit le capturer, soit lui faire la peau, mais ils sortent spécialement pour lui. Ils sortent, il y a quand même 300 hommes qui sortent, plus 50 cavaliers, et ils vont à Saint-Julien, où Vitraud est basé, avec 25 cavaliers. Et puis cette sortie ne se passe pas bien. Un, on ne le capture pas, il y a eu des désobéissances, il y a eu des pillages sans ordre, Vitraud en a profité pour s'échapper sur les toits en chemise de nuit. On a tué quelques cavaliers, mais il y en a d'autres qui se sont échappés. Bref, c'est un désastre. Et c'est surtout les pasteurs, le consistoire et la compagnie des pasteurs qui vont se plaindre, et assez fortement. Dans cette sortie du 1er et 2 février, ils vont aussi à Cholet. Et là aussi, il y a des pillages. Le vicaire du curé est tué. Mais ça, ce n'est pas du tout prévu, si vous voulez, et ce n'est pas acceptable. Et on a pris des biens en paysans, etc. Donc, le consistoire se plaint. Contre toute humanité et conduite de guerre, le vicaire du curé a été tué à notre honte et reproche. Que messieurs tâchassent de faire restitution et pouvoir à l'avenir que notre guerre ne soit en brigandage. Messieurs nous ont répondu qu'ils voyaient le mal bien mari et tâcheraient de pourvoir pour l'avenir. C'est pas beaucoup mieux avec la compagnie des pasteurs, par les pilleries qui ont été faites et qui ont causé que l'ennemi est échappé, aux bonhommes, aux paysans dont on a pris le bœuf, la vache et à Cholet tué le prêtre. Et au retour, un soldat donc, portait le chasuble, l'autre la mitre, l'autre la croix, comme si c'était une farce. Bon, messieurs, bien Marie, le conseil de guerre avait déjà pris une décision, c'est-à-dire qu'on va étouffer l'affaire. On ne va pas dire ce qui s'est passé, tellement on est honteux. Hein. Et après, on décide qu'on va se tenir aux ordonnances militaires. Bon. Promesse, qu'est-ce qui va se passer? Je signale aussi que dans la sortie de Cholet, on a capturé 15 Français qui étaient d'anciens ligueurs, ceux qui avaient suivi d'Albini au service du duc de Savoie. Eh bien, nous les retrouverons tout à l'heure, ces prisonniers français. Alors, série de mesures correctives. Déjà le 2 février, en officier genevois, c'était Baudichon de la Maisonneuve. Il était chargé en prenant deux bateaux, la frégate, comme on disait, quand même avec 100 arquebusiers et deux petits canons. Hein. Il devait aller jusqu'à Evian et Thenon. Pourquoi? Bah, pour les faire payer. Il y a l'idée qu'on va commencer à les faire payer. Est-ce que j'ai sauté un article dans les ordonnances militaires, l'article sur les contributions? Attendez. Je me demande tout à coup. Si j'ai sauté cet article, comme on a un peu de temps, excusez-moi. Oui. Alors, c'est dommage. Voilà. Article 38. Tous les habitants des pays de l'ennemi qui ne porteront les armes seront pris en la sauvegarde de la seigneurie en contribuant. Donc, un civil qui paye une contribution il est, lui et ses biens ont une sauvegarde. On ne doit pas le piller, on ne doit pas lui faire de mal. Hein. Quiconque aura enfreint une sauvegarde ou passeport sera puni exemplairement. Alors, je vous ai dit, puni exemplairement, ce n'est pas suffisant. Mais enfin, c'est déjà quelque chose, d'accord? Et puis, comme on avait déjà fait un peu contribuer en 1589-90 avec des succès divers, eh bien, bon, les Savoyards s'attendent à ce qu'on vienne réclamer des contributions, manifestement. Alors, Baudichon, il demandait des pétards pour aller faire sauter des maisons à Évian. Le gouvernement lui dit niette, interdit de prendre des pétards, interdit de faire sauter des maisons. S'ils sont d'accord de payer, tu les pilles pas, etc. Donc, on rappelle fortement ce point. On peut prendre les bien de l'ennemi sur des bateaux dans le lac, à condition qu'ils n'avaient pas franchi la moitié nord du lac, terre bernoise. À condition. Bon. Et alors, effectivement, quand les bateaux reviennent le 5, il nous apprend que Évian, Thenon et autres lieux, c'était sans difficulté aucune rangée à la contribution, tellement que les nôtres s'abstèrent de tout excès et pirille. Et on donne les sauvegardes et courage nerfs pour discuter des paiements. Bon. Plusieurs particuliers en profitent aussi, disons qu'on commence à sortir de la ville, pour aller prendre des blés, des graines sur l'ennemi. Alors, le trésorier de l'Arche, c'est-à-dire le trésorier de la République, Rigaud, doit tout recevoir, on doit conduire ça dans des greniers de messieurs, toutes les prises qu'on fait à l'ennemi, et puis on va noter qui a pris, etc. Donc on commence à organiser un peu ça. Nous voyons très vite, 7 février, vous voyez, toujours au début février, l'élection d'un trésorier de guerre. Alors là, Bernard me dira, mais je n'ai pas vu d'élection de trésorier de guerre en 1589. Ni dans le livre d'Alain Dufour, ni dans ton article, on parle d'un trésorier de guerre. Ça serait une fonction nouvelle, qui est créée spécialement. C'est Philibert Blondel, le fameux syndic de la garde de l'Escalade, celui qui sera exécuté, soi-disant, pour trahison en 1606, qui s'y colle. Au début, il dit qu'il ne veut pas faire, puis finalement, il le fera. Et puis, un mois après, vous voyez qu'il demande d'avoir un cabinet particulier, un lieu, où il peut recevoir les soldats, avoir sa caisse, avoir ses registres, etc. Bon. Et puis, quasiment en même temps, enfin, le même jour, le 7 février, on élit 5 membres de la Chambre des comptes, ils étaient 7, pour s'occuper des contributions. Donc, c'est une sous-commission de la Chambre des comptes, qui s'occupe des finances de la République. Il y a un syndic, il y a un membre des 25, il y en a 3 des 200. Donc il y a 5 seigneurs qui vont s'occuper des contributions. Et ça aussi, à ma connaissance, ça n'avait jamais été fait avant. Autre mesure, toujours le 7 février, on va préciser le rôle du Conseil de guerre. Et ça aussi, j'ai l'impression qu'on ne l'avait jamais fait dans la guerre de 1589, de vraiment préciser ce qu'il faisait. Alors, je ne vais pas tout détailler, il y a 9 articles, mais il y a quand même dans les 9, 5 articles ou 5 parties d'articles qui nous intéressent. Le premier, interdiction, alors ça va peut-être de soi, mais c'est mieux de l'écrire. Hein. Interdiction de sortir, de faire une course sur l'ennemi sans accord du conseil de guerre, sinon privation des gages, du butin, etc. Pour juger des butins, savoir s'ils seront bons, connaître la rançon des simples soldats, eh bien c'est les décisions du conseil de guerre. Donc un simple soldat, c'est lui qui fixe la rançon. Parce que tout le monde peut être mis en rançon. Hein. Bon, c'est assez la norme. Par contre, les chefs, les capitaines, les gentilshommes, c'est le petit conseil qui décide ça. Ensuite, les secrétaires d'État, il y a 2 secrétaires d'État, c'est eux qui écrivent le registre du petit conseil. C'est eux qui écrivent les sauvegardes qui peuvent être adressées au village savoyard, aux paroisses. Mais ils ne font rien sans accord, sans ordre de la Chambre des contributions. Et il faudra garder tout ça, les papiers, pour contrôle. Bien. Le trésorier de guerre ne délivre rien, ne paie rien, sans mandat des commissaires de guerre. Donc, des commissaires de guerre. Contrôle ou donne des ordres au trésorier de guerre pour payer. Tous les butins, rançons, contributions, etc. qui se tireront de l'ennemi doivent être entre les mains dudit trésorier de guerre. Et on précise que les autres trésoriers, notamment le trésorier de l'Arche, n'a pas accès à ça. On sépare les comptes nettement. Les contributions qu'on prend à l'ennemi, les rançons, ça sert à payer les soldats, les mercenaires qu'on a, en plus de ceux que paye le roi de France. Alors, on pourrait dire que tout va bien. Non. Et c'est intéressant aussi de voir l'attitude des Savoyards, qui n'est pas celle de 1589 non plus. Où ils vont être quand même nettement plus mesurés, avec certaines limites. Il y a des nobles en Savoie, et les paysans savoyards, et les sujets de Genève, qui sont évidemment totalement hostiles à cette guerre et qui font tout pour essayer de la limiter au maximum. Ça va de soi. Et il y en a un de ces nobles savoyards qui écrit très vite, le 6 février, et qui dit carrément « Nous désirons faire la guerre aux hommes, non aux bêtes ». Et il propose qu'on donne sauvegarde à tous les moyens de production, dirait Karl Marx. Donc les bœufs, les charrues, les chevaux ne doivent pas être saisis. Et il se fait fort d'obtenir la réciproque de d'Albini. Alors, d'Albini, c'est le vice-duc à Chambéry. Le duc est à Turin, d'Albini est le vice-duc en Savoie. Bon. Les Genevois se concertent, ils ont l'air assez d'accord. Le 9 février, le petit conseil dit défendre de prendre ou piller pour quelques présentes, que ce soit bétail, charrues, bœufs, chevaux, toutes sortes d'instruments de charrue appartenant à qui que ce soit du parti contraire à peine de vire. On envoie ça à d'Albini qui répond. 11-21 février, oui, juste, hein, vous savez, calendrier julien à Genève, je donne des dates julianes en principe, mais plus 10, ça donne des dates grégoriennes, donc 21 février. D'Albini répond la même chose, défendons à nos gendarmes, n'est-ce pas, de piller, de prendre bétail de charrois, bœufs, chevaux, toutes sortes d'instruments, à peine de vie. Bon. Et puis là, ça va coincer parce que Genève a besoin d'argent. Et les membres de la Chambre des contributions, et le procureur général qui défend les intérêts des républiques, du peuple, disent attention, si on fait ça, ben, il n'y a plus de contribution sur les paysans. On peut toujours faire payer Evian et Tenon, mais le reste, il n'y aura plus moyen. Parce que ça, c'est les biens des paysans. Donc, c'est Genève qui revient en arrière et qui n'accepte pas cette sauvegarde des moyens de production. Bon, avant de poursuivre, quelques remarques sur ce mois de février. De toutes parts, arrivent à Genève des demandes de protection, des sauvegardes. Tout le monde veut sa sauvegarde pour soi, pour quelqu'un qu'on connaît, pour en Savoyard, dont on espère la réciproque pour ses biens en Savoie, parce que des Genevois ont des biens en Savoie. Des Français ont des bois, ont des biens en Savoie, des Valaisans ont des biens en Savoie, des Bernois et tout. Enfin bon, donc surtout ça écrit pour dire attendez, mettez en protection machin, et puis moi je vais demander d'avoir une protection de mes biens aussi par d'Albini, puis touchez pas à mes biens évidemment. Bon, bref, tout le monde y va là-dedans. Ça va même très loin parce que le roi de France écrit. Alors lui évidemment c'est un peu plus important. Il demande la protection pour des grandes abbayes, l'abbaye de Pommiers, par exemple. Il demande la protection pour tout l'apanage du duc Henri Ier de Savoie-Nemours. Vous savez que c'est la branche cadette de Savoie qui a l'apanage sur tout le Genevois et Faucigny, quasiment aux portes de Genève. Réponse des Genevois aux demandes de faire une protection générale pour tout ce terrain. Réponse des Genevois, nous sommes contraints de faire la guerre aux gens et sur les lieux où on nous l'a fait, toutefois qu'on ira en leur contemplation autant retenu que possible fera. Voilà. Il y en a d'autres qui écrivent pour les mêmes biens et les Genevois répondent toujours qu'ils soient protégés de tout pillage et acte d'hostilité, à quoi il est répondu qu'ils le seront à condition de payer la contribution et de ne pas porter les armes contre Genève. Donc il y a ces deux conditions quand même. Puis bon, j'ai parlé de solidarité paysanne, mais il faut le dire, les paysans de Jussy, c'est les premiers à dire « Attendez, mettez pas à contribution Saint-Joire, Végie, Gaillard, attendez, on va payer pour eux si jamais, parce que pourquoi ils espèrent des sauvegardes de d'Albini ?» Donc attendez la réciproque. Hein. Ils seront protégés, nous on sera protégés. Enfin, faites la guerre où vous voulez, hein, mais pas à Jussy. Bon, ouais, on voit très bien que ça va coincer, mais voilà, disons que ça, ça fait partie des demandes. Hein. Bon, vous avez vu, les nobles savoyards sont très actifs, mais avec les paysans, c'est ceux qui ont le plus à perdre. Ils détestent d'Albini, ils sont furieux, évidemment, de l'échec de l'escalade, mais surtout que maintenant, il y a la guerre sur leur terre. Bon, les contributions, on espérait qu'elles rapportent gros. Généralement, on exagère ce qu'on va recevoir, mais bon. Hein. Alors, bien sûr, vous avez les ordonnances, vous avez toutes les mesures qu'on a prises, et puis vous avez les Genevois, vous avez des officiers étrangers qui ont quand même envie de se prendre un petit pactole. C'est humain, c'est l'époque, voilà. La norme, c'est un peu ça, hein. C'est « je me sers », puis après, comme je ne vais quand même pas revenir avec mon butin à Genève, généralement, je le cache dans la campagne autour. Et puis, si le gouvernement genevois l'apprend, il convoque l'individu, oui, on sait de bonne source que tu as caché du bien, donc tu vas aller faire un petit tour en prison jusqu'à ce que tu nous le donnes. Puis après, on va décider de ce qu'on en fait, parce que, évidemment, la personne qui a été prise, est-ce qu'elle a contribué? Dans ce cas, elle va demander la reddition du butin, et on a beaucoup de cas où le gouvernement genevois va rendre des butins. Hein, ceux qui les réclament, toute la difficulté, mais quand même, il y a pas mal, et c'est là, on voit, il y a pas mal de va-et-vient, hein, de gens qui viennent. Alors, ces gens qui n'obéissent pas, ce qu'on voit dans le registre du Conseil, c'est pas n'importe qui. C'est des citoyens de haut rang. C'est des officiers. Parce qu'au fond, le soldat de base, étranger ou genevois, il va devant le conseil de guerre, il ne va pas plus haut. Mais les citoyens importants, des officiers, voire des membres du conseil des 200, voire des frères, des fils, des neveux de membres des 25 qui sont dans le tas, eh bien ceux-là, ils se retrouvent devant les 25, et puis censure, c'est la première phase, prison, c'est la deuxième, et puis on peut peut-être aller un peu plus loin. Alors, en exemple, on a une demi-douzaine de personnages qui se font remarquer en mal. Moi, je les appelle les brutes de la République, mais on est en guerre, hein, donc ces brutes sont utiles, même si ils font des choses, bon, il pourrait y avoir un peu de complaisance. Mais il y a des limites. Je cite, 5 février, toujours début février, hein, Jean Boudichon, Jean Thomas, sortir hier, sans congé, pour saisir le bétail des paysans d'Étrembières et Annemasse, qu'ils ont amené près de la ville. Ayant été appelés devant le petit conseil, se sont présentés, disant pour l'exemple qu'ils obtinrent congé de M. Duvillard. M. Duvillard, c'est le commandant en chef des troupes genevoises, c'est en français. Hein. Déjà dans la guerre de 1589, les commandants en chef sont presque toujours des officiers français, envoyé soit par le roi de France, soit par le gouverneur du Dauphiné, le duc de Lesdiguières, en l'état. Villard a soutenu que c'était seulement pour aller prendre l'angle, donc il n'aura jamais dit d'aller piller. Après intercession de Duvillard, donc Duvillard en fait intercède pour qu'on les punisse pas trop fort. Il y a une solidarité entre les officiers, hein. C'est la guerre, hein. Bon. Ok, alors, en promettant par eux de rendre tout ce qu'ils auront pris et enlevé, on se contente pour le présent de leur faire bonne censure, comme aussi de restituer au châtelain Grillet, en châtelain savoyard, tout ce qu'ils lui ont ôté. Bon, donc voilà, les savoyards se plaignent, on fait venir, au minimum censure et on rend. On a un certain nombre de cas comme ça, bourgeois de d'Evian, par exemple, mais aussi des simples paysans qui arrivent à venir se plaindre. Et bien souvent, on leur rend, en tout cas, le butin qu'on a pu récupérer. C'est donc un peu plus compliqué si en bateau, parce qu'on le voit, hein, on va prendre quelque chose le long de la côte savoyarde, et puis on va le vendre du côté d'Aubonne. Puis après, on vient à Genève en disant, voilà, je... Non, non, j'ai rien appris. Non. Puis des fois, le gouvernement l'apprend. Les brutes de la République, juste une chose, en petit détail, ils vont donc assez souvent, en fait, en prison. Hein, jusqu'à ce qu'ils rendent les butins qu'ils n'ont pas, annoncés. On a, par exemple, le 15 mars, Étienne de Chapeau-Rouge, alors son oncle, François de Chapeau-Rouge, c'est un des premiers syndics de la République, c'est notre ambassadeur auprès d'Henri IV, c'est les toutes grandes familles de la République. Eh bien, lui, il se fait mal voir. Hein. Bon, il est tout le temps à prendre des choses, à ne pas respecter les ordonnances, etc. Alors, il était détenu à l'évêché, la prison de l'évêché, derrière la cathédrale, mais il était détenu à côté de prisonniers savoyards. Puis voilà que tout à coup, il y a eu une bagarre hein, pour avoir donné un coup de poing en paysan prisonnier avec lui à l'évêché, 25 florins d'amende. Intéressant quand même. Hein. Un des plus grands citoyens de la République, mais qu'on a appris à se méfier un peu de lui. Allez, on marque le coup. Une amende pour avoir boxé le nez d'un paysan savoyard qui autrement ne représentait pas grand-chose. À l'époque. Bien. On a beaucoup de retard dans le paiement des contributions, et ça, c'est pas surprenant, les paysans, ils n'ont pas grand-chose. J'ai là, par exemple, un exemple, au mois de mai, c'est égal le mois, les paysans d'Annemasse s'adressent une plainte au Conseil au sujet des contributions, alors qu'il ne leur restait à payer que 7 florins et demi. Du montant total, les soldats du capitaine Guignet, alors c'est en français qui fait partie des brutes, leur avaient pris fourrage, bétail et les avaient jetés en prison. Ils les avaient ramenés, hop, en prison dans les geôles. Puis le gouvernement l'apprend après. Que fait le gouvernement? Le Conseil ordonna leur libération immédiate et la restitution de leurs biens. Donc il y a quand même ça. Mais est-ce qu'on va condamner Guignet? Non, pas vraiment. Maintenant, il faut, pour ces brutes, quand même ne pas exagérer. Alors il y en a un qui a exagéré, c'est Jean Thomas, citoyen, membre des 200. Il a exagéré parce qu'au mois de mars, il est allé avec d'autres, mais c'est lui, disons, qui était le chef de file, il est allé au Bouvray et à Saint-Jean-Golfe. Bouvray, Saint-Jean-Golfe, c'est terre valaisanne. Il a pillé. Donc la République a reçu une belle lettre de Sion. Leur disant, disons, les cocos, là, ça ne se reproduit pas, sinon on va prendre des mesures. Et les mesures, la menace est très claire. Hein. C'est-à-dire, on est neutre, mais on pourrait ne plus l'être. Donc, gouvernement, Genevois, le petit conseil répond, ouais, bon, on avait des prisonniers, on les a libérés, on n'avait pas de preuves, mais on rouvre l'enquête. On arrête Jean Thomas, qui là fait une grave erreur. Devant le petit conseil, bon, c'est en sanguin. Il monte les tours et il dit « J'aimerais mieux servir le diable ». Alors ça, non, ça on ne dit pas. À l'époque, on ne dit pas ça. Hein. Jean Thomas va perdre son poste d'officier et il va perdre sa charge de membre des 200. C'est quand même une peine lourde, hein, parce qu'il ne va pas les récupérer, ça. D'accord ? Et puis bon, il va évidemment livrer tous les butins, demander pardon à genoux, enfin la totale, mais ça c'est classique. Bon, c'est à ma connaissance la plus forte punition qui a été faite, mais elle est importante, mais évidemment il avait exagéré, on ne va pas piller des tiers. Mais vous savez, je vois en 1589 des choses inouïes, à ce moment-là, vous avez des jeunes bois qui allaient piller du côté de Vevey, terre bernoise, et qui allaient vendre les biens à Aubonne, terre bernoise aussi. Hein. Bon, ça n'existe plus. On ne va plus toucher aux terres bernoises en 1603. En tout cas, j'en ai aucune trace. Bon, reprenons ici. Ah, il faut que je vous parle un petit peu des prisonniers. Alors, vous savez qu'on a pendu les prisonniers d'escalade. Tout le monde sait ça. C'est contraire aux ordonnances militaires. Mais le gouvernement savait très bien cela. Donc le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a fait un procès. Alors ça a duré une heure, mais il leur a fait un procès. Selon le gouvernement Genevois, évidemment le duc de Savoie n'a pas été d'accord, mais ça c'est un autre problème. On est en paix. Donc vous n'êtes pas des prisonniers de guerre. Donc vous vous êtes comportés comme des assassins, des voleurs et des brigands. Et qu'est-ce qu'on fait avec les voleurs et les brigands? On les pend. Donc voilà ce qu'on fait. Et c'est un jugement qui est fait le matin du 12 décembre 1602. Et la version la plus correcte probablement de la sentence, c'est le journal d'Isaïe Coladon qui nous la donne. Et puis alors intéressant, c'est qu'en 1603, on peut imaginer qu'on capture en Savoyard ou en Français au service de la Savoie et qu'il aurait fait partir des troupes attaquant à l'escalade. Si on arrive à prouver ça, eh bien, on décide qu'on va le pendre. Et dans les années qui suivent, après la paix de Saint-Julien, on a quelques cas. Le gars qui va boire un coup à Carouge et qui dit « Oh, j'y étais le 12 décembre », ça arrive à l'oreille du gouvernement, il dit aux gardes du pont d'Arc, « Dis donc, Coco, la cire vient, vous le chopez, vous nous l'amenez. » Et puis on lui fait un procès et on le pend. C'est arrivé plusieurs fois dans les 10 ans qui ont suivi l'escalade, cette plaisanterie. Bon. Les rançons. Alors, un cas intéressant, 28 février, parce que là, l'historien aime bien les passages comme ça, De Véras, c'est un membre du 25, rapporte que quelques soldats s'offrent d'aller prendre des prisonniers qui rapporteraient 10 000 écus de rançon. C'est colossal, Bon. Si on leur en laisse les trois quarts, comme on fait partout ailleurs, sans leur tenir rigueur des ordonnances. Superbe. Donc vous savez que les ordonnances, c'est 40%, 48%. C'est les trois quarts de la norme. Le gouvernement genevois coupe la poire en deux, on leur en laisse les deux tiers, à condition qu'ils les aillent, les 10 000 écus, et seulement pour le mois de mars. On n'en parle plus, ils ne les ont pas eus, et donc ça c'est... Voilà. Parce que pour trouver quelqu'un qui rapporte ça, c'est autre chose. Alors, c'est vrai qu'on a des exemples de rançons, mais il n'y en a pas énormément, mais je vous en cite deux. Alors, il y a les soldats de base, il y a les paysans, mais... Voilà. Si le Dalbini ne paye pas, personne ne paye. Bon, ça c'est un autre problème. Mais vous avez un personnage important qui est capturé le 2 février... C'est le commandeur de Compossière, chevalier de Malte, Pierre de Saconin. On ne les aimait pas, il y en avait un chevalier de Malte qui a fait partie de l'escalade, le chevalier d'Andelot, on le savait très bien. Et donc là, notre Pierre de Saconin, il a payé pour les autres. On l'a capturé, on le ramène à Genève. Et il va. Alors, c'est un seigneur. On ne le met pas à l'évêché, on ne le met pas en prison. Il demande même à ne pas être dans une chambre à la maison de ville, ce qui était la norme pour un gentilhomme, être dans une chambre de l'hôtel de ville. Il a le droit de se balader dehors, mais il doit payer 2 gardes. Bon, il peut le faire pour l'instant. Mais il se fait mal voir. Pourquoi ? Parce qu'il appelle ses chiens Bèze et Calvin. Il se balade en ville en appelant ses chiens Bèze et Calvin. Alors ça jase au Conseil des 200, ça jase au 25, mais on n'est pas dans des états totalitaires du 20e siècle. Ça j'aime bien quand même le rappeler. Donc, quand le Pierre de Saconnet va dire un mois après, ouais, ça me coûte un peu cher les 2 gardes, j'aimerais avoir une chambre à l'hôtel de ville, ben, le gouvernement lui dit non, tu restes dehors avec tes chiens et tes gardes. Bon. Et puis ils le mettent à rançon, alors là, pour une somme de 4000 écus, alors ça c'est quand même lourd, lourd. Et du reste, au mois de juin, quand on discutera de le libérer, il a promis à ce moment-là de payer 3000 florins. Je vous rappelle que les écus, c'est 8 florins et demi. Donc 4000 écus, c'est 36 000 florins. Bon, là, on est à 3000. Bon. Alors, j'espère pour les Genevois qu'il les a payés, ils les ont libérés, parce que s'ils ont attendu 20 jours de plus, c'était râpé, c'est le traité de Saint-Julien, et tous les prisonniers doivent être libérés sans rançon. Alors, bien sûr, les prisonniers devaient payer les frais de geôle. Donc là, on peut les garder tant qu'ils ne payent pas les frais de geôle. Mais autrement, il n'y a plus de rançon. Un autre exemple de rançon, c'est Pierre Petit, châtelain de Thonon. C'est un ancien pasteur genevois apostat. Le duc de Savoie l'a trouvé en poste près de Genève, exprès pour embêter les Genevois, châtelain de Thonon. On l'a pris, on l'a ramené à Genève. Il va payer une rançon, 750 florins. C'est pas mal. Enfin, on voit. Bon. Et puis alors, il n'est pas idiot, il dit alors, oh, je paye, mais attendez, je veux une sauvegarde pour le reste de l'année. Alors, le gouvernement genevois, près de ses sous, hein. T'auras une sauvegarde pour un mois. Donc ça veut dire qu'après, tu payes contribution. Ok. Il y aura des mesures ultérieures à celles que j'ai signalées du mois de février. Toujours pour essayer d'avoir un plus fort contrôle sur les butins et les rançons. Tout preneur va consigner à l'entrée de l'évêché, c'est-à-dire de la prison pour les prisonniers. Il faudrait noter qu'est-ce qu'on espère comme rançon. Puis en tout cas, le geôlier ne doit libérer personne sans appeler le trésorier de guerre Blondel, qui doit retirer la part de la seigneurie, bien sûr. Et puis là, vous voyez, bon, on est au mois de mai, c'est quand même plus tard, mais enfin, un peu même chose. Donc, des butins qui s'évaporent ou qui ne sont pas déclarés. Quelqu'un a dit qu'au fond, ça rapportait 20 ducatons. Donc ça, les ducatons, c'est 7 florins et demi. Donc c'est quand même 150 florins. Et puis, en réalité, on en a retiré plus de 80, donc 4 fois plus 600 florins. Parce qu'en fait, l'individu en question a vendu le butin à Chavannes. Et il n'a pas dit ce qu'il a touché exactement. Donc voilà, là on dit qu'il faut évidemment inspection sur tous les butins qui entrent. Et si on refuse de consigner, si on refuse de les amener, confiscation, etc. Bref. Ok. Mesure ultérieure, il faut lutter contre le recel. Évidemment, le recel, c'est les Genevois qui font des recels, c'est bien clair. Hein. Aussi. Évidemment, les Vaudois, on ne peut pas aller leur réclamer. Mais les Genevois font des recels, donc il y a des amendes, etc. Bon. Plainte des commis au butin, les soldats commettent des abus, recèlent des butins. Eh bien, alors, on décide quelque chose d'assez particulier. Il faut un lieu où on met tous les butins, mais qui soit fermé avec deux clés. Un, au commis des contributions, en autre aux soldats. Donc il y a un contrôle, un double contrôle pour tenir sous clé les butins qu'on a ramenés. Et puis pour éviter les erreurs dans les prises de contributions, on décide que les soldats qui sortent avec un capitaine, un officier, doivent avoir un double du rôle des contributions. Et surtout, doivent contrôler avant toute sortie auprès du trésorier qui doit payer quoi. Donc imaginez qu'on sort, on va voir M. Blondel, alors oui, non, celui-là il a déjà payé, on part, celui-là il doit encore tant, vous voyez, on sort, on change la somme, ah, celui-là il doit payer de nouveau, donc vous pouvez y aller. Avant chaque sortie, vous voyez un peu l'effort qui est fait ici, qui est quand même assez important. Rappelons que le 2 mai, on avait décidé de publier les ordonnances militaires. Et puis, on veut aussi être juste avec les soldats. Je signale le 28 mai, même si c'est tardif, qu'on rappelle qu'on doit donner sa part à chaque soldat, mais sur la base d'un rôle tenu par le capitaine du soldat. Donc, le capitaine, il est tenu de faire le calcul. Voilà, ces 10 hommes ont pris en cheval, ils ont droit chacun à 4% du prix du cheval, etc. Et l'échange d'informations se fait. Bon, ok. Est-ce que tout est pour le mieux dans le meilleur du monde? Évidemment pas. Le principal problème qu'il va y avoir, c'est une inflation des contributions. Et là, la Savoie en a aussi sa responsabilité. Parce que dès le mois de mars et avril, on voit les Savoyards réclamer des contributions, des contre-contributions en quelque sorte. Et on a un passage très intéressant où Vitraud de Basterga, le fameux, réclame tout à coup à Jussy, Saint-Victor et Chapitre et Gaillard, en gros c'est du lac à Larve, peut-être un peu au-delà de Larve, les possessions genevoises, eh bien il réclame tout à coup 3400 florins. Et puis il dit une chose très intéressante, il dit oui, je sais, aux gens de Jussy et de la région, il dit oui, vous payez 200 florins par mois à Genève. Donc il sait ce que les paysans genevois payent à Genève. Bon. Eh bien, je vous réclame 17 mois. 3400 florins. Alors là, on se pose quand même la question, pourquoi 17 mois? Je ne peux pas le trouver. Mais on peut penser que c'est ce que Genève avait déjà obtenu de la Savoie. 3400 florins. C'est pas rien. Ça paye quand même pas mal de troupes. Genève, bon, le roi de France payait les 1000 soldats suisses, mais il devait payer quand même l'équivalent pour 600 Français et autres. Il y avait des Genevois dans le tas, et puis il y avait des non-Français, mais qui étaient dans les compagnies françaises. Et ces 600 hommes, il faut les payer, c'est pas rien. Hein. Donc ça sert à ça. Donc je pense que c'est ça. Alors que fait le gouvernement? Ah, tu nous réclames 3400 florins, ben nous on va taxer les Savoyards de 3400 florins de plus. Donc inflation des deux côtés dans les contributions. Les pauvres habitants de Jussy ne peuvent pas se défendre. Qu'est-ce qu'ils doivent faire et se réfugier à Genève? Vous savez, c'est une guerre. Bon, il n'y a pas eu d'historien de la guerre 1603, il y a plusieurs raisons à ça. Mais c'est une guerre asymétrique. C'est-à-dire que les Genevois, avec leurs 1000 Suisses, ils ont une bonne infanterie, les Savoyards ne viennent pas se frotter contre. Deux fois les Suisses sont sortis en bataille, les Savoyards ne sont pas venus. Les Genevois contrôlent le lac, là les Savoyards n'ont pas de bateau, on les a tous pris. Par contre, les Savoyards ont une bien meilleure cavalerie. Donc les Savoyards, s'ils veulent faire en raid sur Jussy, on informe Genève, les Savoyards arrivent, on y va, les Savoyards sont partis. Puis ils ont pris tous les bœufs, etc. Bon. Voilà, les Savoyards aussi, les Genevois vont aussi prendre les bœufs, mais enfin, voilà. Donc on ne peut pas choper les cavaliers de Savoie. Ils font des raids rapides, ils pillent ce qu'ils veulent, hein, dans les villages Genevois, y compris assez proches de la ville. Bon. Alors ça, évidemment, c'est les malheurs de la guerre. Et la compagnie des pasteurs va en remettre une couche, évidemment. D'abord, on remonte sur les pillages de quelques soldats, même de ceux qui sur ceux qui contribuent. Que le malheur de la guerre nous faisant voir et ouïr tant de plaintes et gémissements des pauvres paysans qui contribuent ou de ceux qui n'ayant voulu contribuer et auxquels on ôte tout bétail et autre chose. Ça nous fait voir l'ire de Dieu sur nous en cet horrible fléau de la guerre, etc. Que pour le moins, messieurs seront priés de garder en ces mots nécessaires toute l'humanité et modération qu'il sera possible. Oui, bien sûr. Les pasteurs luttent contre les blasphèmes des soldats, luttent contre les jeux, luttent contre les duels, enfin bon. Mais chaque fois qu'un soldat, notamment étranger, français, ou bernois, bon, on doit... Alors, bernois, c'est compliqué, parce qu'ils ont une certaine autonomie judiciaire qu'ils ont réclamée, qu'on n'a pas pu leur refuser entièrement, bon, c'est compliqué. Mais pour les Français, bon, on a la main juridique sur eux, mais dès qu'on doit condamner un soldat français pour un duel, par exemple, il y a des cas, eh bien, tous les capitaines viennent, le général français vient, non, vous ne pouvez pas l'exécuter, bon, alors, on le bannit. C'est la norme, mais on ne l'exécute pas. Bon, contrairement aux ordonnances. Les pasteurs interviennent aussi pour les prisonniers. Vous savez que les pasteurs devaient visiter les prisonniers tous les samedis en l'évêché. Donc voilà les pasteurs qui vont, de nouveau, hein, prisonniers les pauvres paysans. Là, des prisonniers qui ont été faits par Berne, bon, ils les tourmentent, enfin bon, voilà. Mais les pasteurs interviennent, essayent quand même de faire quelque chose. Le problème, c'est que tout le monde sait que ces paysans ne peuvent pas payer de rançon, c'est ceux qui n'ont pas payé la contribution, qui ne peuvent pas payer de rançon. Alors, les pasteurs disent, mais essayez d'obtenir un accord avec la Savoie, que quand même on fasse en paiement collectif, parce qu'évidemment, ils n'ont rien, ils ne peuvent pas payer, tout le monde le sait. Bon. La saga des prisonniers de Cholet, je vous ai parlé de ces prisonniers, ces 15 Français ex-ligueurs qui avaient suivi d'Avigny en Savoie, bon, il y en avait beaucoup d'autres, hein. Entre parenthèses, c'est les troupes de choc à l'escalade, hein. C'est les ligueurs qui ont suivi d'Avigny en Savoie. Hein. Bon. C'est eux les premiers montés, hein. C'est eux qui ont payé le plus cher tribut avec la noblesse savoyarde à l'escalade. Les prisonniers de Cholet, les 15 Français, il faut savoir que le roi de France a condamné à mort les ligueurs qui n'ont pas accepté la grâce d'Henri IV. Leurs biens en France ont été saisis. C'est les ligueurs qui ont quitté après la conversion d'Henri IV et puis qui, même après la paix de Vervins, n'ont pas profité de la grâce pour rentrer en France. Donc Henri quatre et de leur peau. Et le duc de Lesdiguières à Grenoble, la même chose. Enfin bon. Et le roi apprend qu'il y a ces prisonniers français, il écrit une belle lettre. Je vous prie d'exécuter leur chef et de livrer les autres aux galères à Marseille. Bon. Alors évidemment, d'Albini, furieux, dit aux Genevois, si vous les livrez, moi, vos prisonniers vont aller à Gênes, aux galères aussi, hein, déjà. Tous les capitaines, même Huguenot, hein, interviennent. Non, non, on ne peut pas faire ça. Non, non, on ne les livrait pas. Bon. C'est pas ça qui va finalement les sauver. Ce qui va les sauver, c'est que les Genevois, le gouvernement genevois a quand même une calculette dans la tête. Donc les prisonniers doivent payer leurs frais de geôle. Donc ils disent aux commis envoyés par le roi de France, oui, pas de problème, on vous les livre, enfin voilà combien ça coûte les frais de geôle. Puis le commis ne veut pas payer. Et puis les Genevois ne veulent pas les donner, parce qu'ils veulent qu'on paye. Et ah non, vous ne voulez pas payer. Ça va durer un mois, avec lettre, contre lettre, etc. Puis résultat, ces malheureux vont pas être livrés. Heureusement pour eux. Maintenant, d'Albini ne paye pas leur rançon. Tout le monde les laisse. Arrive le traité de Saint-Julien, ils sont incapables de payer leurs frais de geôle. On ne les libère pas. Donc les pasteurs continuent à les voir. 19 août 1703, vous savez que le traité de Saint-Julien, c'est le 11 juillet. Ils remontrent aussi la misère de ces soldats de Cholet. Si longtemps l'évêché mangeait de vermine et de pauvreté, contraire à toute charité et humanité, le 30 septembre, ils pourrissent de pauvreté en la prison. Et puis en fait, ils vont attendre jusqu'au 18 août 1604, plus d'un an après le traité de paix. Enfin, ils sont relâchés. Je ne sais pas si quelqu'un a payé pour eux, je ne suis pas sûr. Et là, dit le journal des Aïeux Queladon, je ne vois pas qu'Isaïe Queladon, enfin, je crois. C'est un professeur de l'Académie, c'est un membre de la Compagnie des Pasteurs. Ils ne sont pas tous pasteurs à la Compagnie, c'est la Compagnie des Pasteurs et des professeurs. Il y a trois professeurs, dont lui. Et il dit que ces prisonniers les ont remerciés, la Compagnie des Pasteurs, qui sont les seuls à avoir eu un peu de charité pour eux. Je parle maintenant rapidement de la rupture des négociations du 20 mai 1603. Bon, j'entre pas dans le débat des négociations pour la paix avec la Savoie. Ça se passe mal. Le 20 mai, il y a rupture. Et puis en fait, ce qui va se passer, c'est que Henri IV en a marre, les Uriquois, les Bernois en ont marre, tout le monde en a marre. Il n'y a que le duc et les Genevois qui campent sur leur position. Donc résultat, Henri IV va, et ses ambassadeurs en Suisse, va imposer de fait une médiation. Et le duc ne pourra pas tellement dire non. Hein. Donc on va imposer une médiation, et c'est les médiateurs suisses, il y en a 11 qui vont arriver dans les deux semaines qui suivent, et qui vont arriver à faire un projet de traité, qui va être le traité de Saint-Julien. Bon. Mais on ne le savait pas le 20 mai, alors on prend une série de mesures. Alors c'est intéressant, parce que ça nous renseigne sur ce que les Genevois n'avaient pas fait jusqu'alors. Or, quand même, on décide d'empêcher le labourage des terres de ceux qui portent les armes contre nous en saisissant les personnes et les biens, ça veut dire qu'on ne l'a pas fait systématiquement avant. On décide de ruiner les moulins aux alentours de ceux qui ne contribuent pas, ça veut dire qu'on ne l'avait pas fait systématiquement avant. De contraintes de contribution, les villages non encore taxés, ça veut dire qu'il y en avait, qui n'étaient pas encore taxés. Et puis, on élit en conseil de guerre, alors au lieu de 7... qui se réunissait avec tous les capitaines, les Bernois, le Zurichois, les Français, le commandant en chef et son adjoint, eh bien, au lieu de ça, ils sont plus que 5. Et il n'y a plus que le commandant en chef, qui à ce moment-là est le baron de Confortien, c'est aussi en français, et puis son adjoint Dugon. En fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre là derrière? C'est le renforcement toujours du pouvoir civil sur les militaires. C'est les 5 qui décident, les autres sont là pour obéir. Et Confortien est furieux. Furieux, et il dit aux 25, puisque c'est comme ça, si vous prenez une décision, moi je vais en parler à tous les capitaines, et s'ils ne sont pas d'accord, on ne la fait pas. Point barre. Vous voyez, il y a quand même pas mal de tirages, hein. C'est pas du tout un long fleuve tranquille. Alors, d'autant plus qu'il y aura la prise de Saint-Genis sur Guy, qui à cette époque on l'appelait Saint-Genis d'Ost. Alors, quand même. Ça vaut la peine de dire 5 minutes dessus. Saint-Genis sur Guiers est ici, à la frontière du Dauphiné et de la Savoie. 20 km de Chambéry. C'est le 19 mars où les Genevois s'emparent de cette place. C'est à 120 km de Genève. Il a fallu, de nuit, traverser 4 jours en territoire français. Bon, il y a eu des complicités, notamment du gouverneur de Bourg-en-Brest. Parce qu'à Cordon, ici, où il passe le Rhône, il y a une compagnie française, et c'est des terres de la Boisse, gouverneur de Bourg-en-Bresse. Bon, mais par contre, l'édit de guerre à Grenoble est furieux, parce qu'on ne l'a pas prévenu. Et il sait très bien que les Savoyards vont dire que c'est lui, qu'il est complice, etc. Et puis ça va faire une crise diplomatique terrible, cette histoire. Bon, ben, ben, bon on prend Saint-Genis, le 19-29 mars, samedi. On la prend sans pillage. On reçoit la lettre de M. Nel, c'était l'officier responsable, touchant la prise, sans tuerie, sans pillerie. Et puis en Zurichois, qui raconte ce que disent les soldats, dit la même chose. Ils ont joué aux Suisses. C'est marrant parce qu'on a envoyé que les Français, hein, 300 Français. Ils ont joué aux Suisses, c'est-à-dire ils ont poussé des cris à la Suisse, je ne sais pas. Et puis les gens du lieu se sont immédiatement rendus, et voilà. Bon. Le duc de Savoie a tout fait pour faire passer ça pour un massacre, en prétendant que la prise a eu lieu le vendredi 28 mars, c'est vendredi saint, qu'on a commis des épouvantages sacrilèges dans l'église, qu'on a massacré la moitié de la population, etc. Il envoie des lettres au pape, au roi d'Espagne, partout ailleurs. Alors, ça a été une invention, c'est une fake news, mais alors qu'il y a eu un succès considérable. Allez sur le site actuel de la commune de Saint-Genis-sur-Guiers et vous voyez dans l'historique de la commune l'horrible massacre, l'équivalent d'Oradour-sur-Glane pratiqué par les SS Huguenots en 1603. C'est tel quel. Hein. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de problème. Il y aura des problèmes, mais après. Il y aura des problèmes après parce que 300 Français, puis bientôt 350, à Saint-Genis, c'est difficile à contrôler, c'est difficile à payer. On envoie régulièrement un membre du Conseil des 25. L'obéissance est difficile à obtenir. La compagnie des pasteurs envoie en curé, en pasteur, excusez-moi. Bon, il y a beaucoup d'indiscipline, il y a des pillages, y compris en terre française. Les gouverneurs français sont furieux, même les Diguières, même la Boisse. Bref, on a eu beaucoup de problèmes avec cette garnison, mais vous voyez, loin de Genève, pas facile. Entre parenthèses, faiblesse de la Savoie, hein. D'Albini est incapable de reprendre une petite place quand même, comme ça, qui n'a pas les fortifications de Genève, tenue par 300 Français, c'est imprenable. D'Albini, il n'en peut plus au mois de juin, il dit au duc, il faut faire la paix, il faut brancher. Quel est le problème? C'est que je vous rappelle, les Espagnols ne sont pas en guerre. Il y a des milliers d'Espagnols pas loin, hein, comme par exemple à Annecy, il y a au moins 2500 d'Espagnols, une troupe officielle, mais elle ne fait pas la guerre. Hein, ils sont bras croisés. Donc ça, c'est aussi une limite par rapport à la guerre de 1589. Hein, donc bon, la faiblesse quand même ici de la Savoie. Donc, bref, ces gens n'obéissent pas. Et c'est à ce moment-là même qu'on voit une mutinerie le 30 mai, un rapport de Jacques de la Maisonneuve. Il nous dit que, bon, je vais vite, hein, on a rendu des butins, comme on le faisait à Genève, de ce qu'ils avaient pris dans la campagne autour sans ordre. Et puis les soldats disent qu'ils n'iront plus à la guerre. On croise les bras. À Genève, il arrive des choses presque similaires. La compagnie Guignel et 300 autres Français. Qui disent on ne nous paye pas, on ne vit pas, on ne sort plus. Et puis il faut leur montrer les papiers signés avec, devant le commandant en chef, voilà ce qu'ils ont signé, livré du trésorier de guerre, vous avez reçu vos soldes, obéissez maintenant. Bon, il y a quand même beaucoup de problèmes. Alors c'est à Saint-Genis qu'il y aura quand même le plus de problèmes, parce que quand il y aura là le traité de paix de Saint-Julien, on évacue Saint-Genis, il n'y a plus d'autorité genevoise. Et je pense que c'est à ce moment-là que Saint-Genis est pillé par nos Français, ils partent, hein, ils ne rentrent pas à Genève, ils partent. Et on a deux documents aux archives genevoises, on voit que 11 maisons ont été pillées, certaines complètement ruinées, et on demande à Genève une indemnité, 50 florins, non, 50 écus, pour une maison pillée, 200 pour une maison ruinée, je pense, incendiée. Et puis il y aura encore des frais, il y aura encore 1600 écus de biens meubles, etc. Bon, finalement, je ne pense pas que Genève a payé quelque chose parce que les Genevois, de leur côté, réclament de l'argent à la Savoie pour d'autres biens qu'ils n'ont pas eu, qui ont été pillés, etc. Et puis un an après, il y a un député de Savoie qui dira « Bon, ben, je crois qu'on va arrêter les discussions là et puis que voilà, on ne va pas nous payer, puis pas vous payer, puis c'est égal. Bon. » Mais enfin, donc Saint-Genis a bien eu du pillage, mais plutôt à la fin, quand l'autorité genevoise n'avait plus le contrôle. Conclusion, rapide, parce que j'ai déjà dépassé l'heure. Par rapport à 1589, évidemment c'est une guerre bien plus courte et limitée. La Savoie, le comportement de la Savoie est moins dur, moins cruel. En 1589, on ne parlait pas de contribution du côté de la Savoie. Hein. Il n'en était pas question. Là, vous voyez que la Savoie a un peu copié Genève quelque part. Hein. Bon, alors avec le problème de l'inflation des contributions. Autre chose évidemment qui a joué un rôle, les Espagnols font pas la guerre, et la cruauté des Espagnols en 1589-90, elle a été là. Ils avaient une très sale réputation et ils l'ont justifié, dans le pays de Gex notamment. Mais ils ne participent pas à cette guerre de 1603. Bon, on a imprimé les ordonnances pour la première fois, mais surtout, moi ce qui m'intéressait, c'est ce que j'ai découvert en préparant cet exposé, c'est l'ensemble des mesures qui ont été mises en place pour, au fond, renforcer le contrôle du pouvoir civil. On a vraiment essayé de se donner les moyens d'appliquer les ordonnances. Conseil de guerre qui a des attributions bien définies, secrétaire d'État qui remet les sauvegardes, contrôlé par la Chambre des contributions, aussi un nouvel organe, butin remis au commis au butin, dans un grenier fermé à double clé. Les chefs des soldats, les capitaines ont en double du rôle des contribuables et doivent le faire viser avant chaque sortie par le trésorier de guerre. Bon, les butins doivent être consignés à l'entrée des ports, du port, les prisonniers à l'évêché, bien sûr. Philibert Blondel doit recevoir tout l'argent qu'on obtient des butins, des rançons, des contributions. Alors bon, ces comptes seront contrôlés par le conseil de guerre, mais la guerre a duré 6 mois, donc on les a contrôlés une fois à la fin. Et puis ils payent quelque chose sur mandat du conseil de guerre et délivrent à chaque soldat sa part du butin sur la base d'un rôle tenu par les capitaines. Tenu par les capitaines. Voilà. Donc je crois qu'on peut dire, même si tout n'a pas été parfait, vous avez vu que les brutes de la République ne se sont pas privées, mais bon... qu'on a essayé vraiment de se donner les moyens de faire mieux. Que l'époque est l'époque, il ne faut pas faire d'anachronisme, le traitement des prisonniers notamment, hein, bon, c'est déjà remarquable là, que la compagnie des pasteurs intervienne pour les prisonniers régulièrement, disent que ça ne va pas, etc. C'est bien les seuls à le faire, mais autrement, tout le monde s'en meurt des prisonniers, je veux dire, ça c'est clair. Hein. Bon. Les relations avec les capitaines et soldats étrangers sont difficiles. Elles étaient déjà difficiles en 1589-90, dès qu'on a fait les ordonnances, hein, c'était difficile. Mais là, on voit des difficultés nettes, en particulier à Saint-Genis. Maintenant, j'aimerais relativiser la grogne des soldats. Quand on fait le traité de Saint-Julien et qu'on dit à tous les soldats, bon ben maintenant, au revoir, puis il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de grande guerre à ce moment-là. Les mercenaires français, il y en a une bonne partie qui dit « Mais on est d'accord de rester à moitié solde, à moitié solde, payé par le roi de France, je vous rassure, qui va payer pendant presque encore 20 ans hein, la garnison genevoise. Donc, nous avons alors, évidemment, les Genevois vont choisir. Ils vont prendre des soldats qui n'ont pas posé de problème. Tous les autres, allez vous faire voir. Et sur Saint-Genis, au revoir. Bon. » Point noir, Genève avait besoin d'argent. C'est dans le registre de la Compagnie des Pasteurs qu'on apprend que Genève ne pouvait pas faire la guerre seule financièrement plus de 3 semaines. Elle ne tient pas en mois financièrement. Donc il faut l'aide de nos alliés, il faut l'aide du roi de France, il faut les contributions évidemment. Donc quand par exemple d'Albini allait jusqu'à dire qu'il fallait protéger tous les bœufs de labour, ben, au fond, peut-être que d'Albini, il sait ça. Lui, il a quand même une marge de manœuvre un peu plus grande, et il sait que c'est Genève qui est le plus embêté si on fait ça et pas lui. Hein. Et puis enfin, en gros, presque égal à lui-même, évidemment, c'est les prophètes d'Israël, c'est les pasteurs de la République. Ils ont tenu leur rôle, il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus. Hein. Même les prisonniers de Cholet l'ont reconnu et eux, ils ont bien souffert.
Un grand merci à Patrice pour cet exposé.
Oui, je m'excuse de mon oubli tout au début. Hein. C'était les thèses de philosophie quand je parlais de qu'est-ce qui avait été imprimé chez Gabriel Cartier. C'était les thèses de philosophie à l'Académie, puisque Isaïe Collado est professeur de philosophie.
Épisode qu'on connaît peu. Puisqu'on parle de guerre, ça représente environ combien de soldats du côté joie? Donc on raconte que ce sont tous des soldats professionnels.
Alors, oui, c'est-à-dire que, bon, tu as des jeunes voix qui peuvent s'engager, alors il y a la garde bourgeoise, etc., mais eux ne sont pas soldés, normalement. Hein. Bon, alors tu peux avoir peut-être un officier qui lui sera soldé, oui, qui fera les sorties, etc. Mais je dirais que, j'ai essayé de faire des calculs, c'est pas évident. En 1589, on avait fait, je crois, une statistique, enfin en relevé, on avait 2100 hommes genevois en âge de porter les armes, 2100. On a 4 régiments de 400 hommes, 1600 hommes normalement, genevois, 1600. Genevois qui peuvent être mobilisés. Bon. 1000 Suisses, 600 Français. Ça, c'est l'estimation que je fais avec tous les Français qui sont arrivés. Vous savez, ils arrivent, hein, les Huguenots arrivent. Et puis, ils sont finalement tellement nombreux qu'au-delà de 600, le gouvernement genevois leur dit « Non, non, mais on ne peut plus payer. Rentrez chez vous. » Donc, on les refuse au-delà de ce nombre-là. Donc, si vous voulez, on avait ces 600 genevois, l'armée genevoise, plus 1600 genevois, plus 1600 Suisses et Français et quelques autres. Donc, ça fait une armée potentielle de 3200 hommes. Je crois qu'une fois, 3000 hommes sont sortis. Mis en bataille, prêt à la bataille. Mais alors, vous voyez, les Savoyards n'ont pas une infanterie équivalente aux Suisses. Donc, même que 1000 Suisses, ils ne viennent pas s'y frotter. C'est-à-dire que les Savoyards, eux, ont peut-être des milices savoyardes. Difficile de les estimer. J'ai vu des estimations 5000, 10000, disons 7000. Maintenant, il y a une grosse cavalerie. Une grosse cavalerie. Peut-être 600. Genève n'a pas plus de 150 cavaliers. Ça c'est l'écart. Donc, ce qui fait qu'en fait, c'est une guerre asymétrique. Les Genevois dominent le lac, parce que quand ils sont sortis le 2 février, ils ont pris tous les bateaux qui pouvaient leur poser problème, 14 barques qu'ils ont ramenées à Genève. Les Savoyards avaient plus d'équivalent aux deux frégates genevoises, deux navires de guerre. En fait, la domination du lac, je précise, c'est en 1589 qu'elle a été obtenue, parce qu'on a réussi au début de la guerre à brûler à Ripaille deux grosses galères qui étaient en construction. Et c'était des galères qui étaient presque finies et attendaient leur équipage qui devait venir de Gênes. Et si ces deux galères avaient été équipées et entraînées, elles auraient donné la domination du lac à la Savoie, il n'y a aucun problème. Il n'y avait pas de bateau équivalent sur le lac. Mais on les a brûlés, ils n'ont jamais été reconstruits. Donc on avait des frégates, c'est aussi des bateaux avec voile, mais aussi avec rame, mais nettement plus petits. J'entends par plus petit, probablement 50 hommes dessus, c'est déjà bien. Mais les grosses galères, c'est 200, peut-être plus. Donc c'est pour vous donner l'écart. Hein. Donc on domine le lac, on a une bonne infanterie. De l'autre côté, en Savoie, on a plus d'hommes, mais les milices savoyardes, elles ne vont pas se frotter aux Bernois de l'époque. Ça, c'est clair. Ils font peur encore. Ils ne font pas peur aux Espagnols. Hein. Ça aurait été différent si le gros régiment espagnol d'Annecy s'était mis dans l'affaire. Mais pour les Espagnols, il n'y a jamais été question, a priori, de faire cette bataille. Hein. Donc, il y avait bien peut-être 3000 Espagnols en Savoie à ce moment-là. Ils ne bougent pas. D'Albini, il n'en peut plus. Mais il le dit hein, dans les lettres. Il n'en peut plus. Il ne supporte plus que ces Espagnols ne bougent pas. Ah, surtout après la prise de Saint-Genis d'Ost. Bon. Donc voilà, on a cette guerre un peu asymétrique. Donc potentiellement, les Savoyards pourraient avoir deux fois plus d'hommes. Ça, oui, sans même donc convoquer les gens de Turin, hein, du Piémont, mais la qualité n'est pas là, sauf la cavalerie. La cavalerie, oui, mais la cavalerie ne va pas attaquer seule, et puis les Genevois ne peuvent pas la coincer, donc voilà. Donc c'est une guerre qui n'a pas eu d'historien, probablement d'abord parce qu'elle est coincée entre l'escalade, qui elle a eu abondance de récits, et puis le traité de Saint-Julien, on a parlé des négociations de Saint-Julien. Et puis il y a autre chose, c'est que dans le traité de Saint-Julien, vous avez un article qui dit qu'on ne doit plus jamais rappeler cette guerre. Donc il y a interdiction de publier une histoire. Genevois aurait donné au petit conseil une histoire de la guerre comme Goulard l'a fait en 1589, il y aurait eu interdiction de la publier. Alors bon, publier, c'est Keleno, des choses comme ça. Mais en truc officiel, non. Interdiction. Donc c'est une guerre qui est très mal connue. Tout ce que je vous ai raconté ici, et je pense que Bernard ne me contredira pas, c'est inédit. Je ne parle pas des ordonnances, je parle de toute l'application qui a tenté d'être faite en 1603. En fait, la plus grande, presque tout, je l'ai découvert en préparant l'exposé. C'est-à-dire que je pensais au départ, un ensemble d'anecdotes, en tel appui, ceci a été arrêté, comment il a été condamné. Puis en fait, en creusant, je me suis rendu compte que ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est beaucoup plus sérieux, c'est évidemment ces mesures prises consciencieusement par un gouvernement qui essaye de bien faire. Étant entendu que la perfection n'est pas de ce monde et que, voilà, il peut faire tout ce qu'il veut, voilà, il y aura toujours des gens qui essayeront.
En termes de pertes humaines, on a une idée?
Alors, il y a une trentaine de morts à Saint-Genis, ils sont tombés dans une embuscade une fois, deux compagnies de 200 hommes sont sortis. Vous voyez, c'est pas autour de Genève, ils ne connaissaient pas le terrain. Ils se sont fait choper, du reste, le chef net que j'ai mentionné, il est mort. Il a été exécuté comme prisonnier par les Savoyards. 30 morts là, il y a mention de quelques morts dans les embuscades, notamment le fils du commandant en chef du village. On venait de lui donner, un jeune homme de 18 ans, on venait de lui donner son premier commandement, commandé et compagnie. Il sort de nuit, il s'avance au-delà de ses troupes, premier affrontement, prend une balle dans la tête. Ouais, dommage. On a la description de son enterrement dans le journal des Aïe Coladon, passage inédit du journal, du reste. Hein. Je dirais que oui, moins de 100 morts pour Genève. Oui. Ah, c'est probablement pour ça que ce n'est pas resté dans les annales. Pour les Savoyards, il ne faut pas oublier qu'ils ont subi ces escalades. C'est probablement 300 morts. Probablement 300 morts parce qu'on ne l'a jamais dit. Mais moi, je trouve remarquable les soins médicaux genevois. Ils avaient plus de 20 blessés. Ils n'en ont eu que 2 qui sont morts. 10% seulement des blessés, pas plus. Les Savoyards, tous ceux qui sont sautés des murailles, qui étaient estropiés, etc., qu'ils ont amenés et tout. Parce que les Genevois ont exposé 67 têtes, disons, il y avait 80 morts sur place. Mais il y en a au moins 150 autres, à peut-être 200 autres, qui sont morts. Ou Badan qu'on a laissé en chemin quand ils ont reculé jusqu'à Étrembières, etc. Donc on a après des chiffres qui circulent. Certains disent 250, certains disent 300, mais c'est énorme. Pour Genève et la Savoie, 300 morts, c'est énorme. Catastrophe. Alors ça, vacciner les Savoyards pour éviter un affrontement sans soutien espagnol plus important que des embuscades, que des raids, etc. Mais il y a quand même des morts chaque semaine, hein, à partir de février. Mais c'est 1, 2, 3, 4, en des blessés, des prisonniers. C'est guère plus, effectivement, sauf les 30 de Saint-Genis. Sont vraiment tombés dans une embuscade. Mais ils ont gardé la place. Bernard.
Oui, alors d'abord je te félicite. C'est vraiment très intéressant, ça fait revenir beaucoup de choses et je crois, mesdames et messieurs, vous aurez appris beaucoup parce qu'il y a beaucoup de neuf. Hein. Pas tout à fait ce qu'on dit, même du four, etc. Moi, il y a une ou deux réflexions qui sont venues en t'écoutant. D'abord, je pense que la situation en 1589 et 1603 n'est pas tout à fait la même pour les ordonnances. En 1589, c'est Genève qui déclare la guerre à la Savoie. C'est pas la Savoie qui attaque Genève. Alors bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais formellement, c'est Genève qui déclare la guerre à la Savoie et entre le 1er et le 2 avril. Et donc, les ordonnances militaires sont faites immédiatement, proclamées le jour de l'entrée en guerre pour être applicables immédiatement. Et donc, applicable d'abord aux troupes genevoises et aux troupes alliées qui vont aller en Savoie. Puis après, on s'apercevra qu'il faut aussi s'efforcer de les faire appliquer aux ennemis savoyards, etc. Bon, là, il y a deux choses. Ça, c'est la première chose. Ensuite, tu as tout à fait. Donc, c'est très différent qu'en 1603, où finalement, après l'escalade, les troupes bernoise confédérée arrive dès janvier et où d'après ton calendrier, ça n'est qu'au début mai. Au début mai, c'est vrai qu'il y a déjà encore les négociations, elles ne sont pas encore rompues puis reprises après, le 20 mai puis le traité de Saint-Julien, c'est début juillet. Début juillet. Donc c'est sur un laps de temps très court,
oui,
6 mois. Et sur ces 6 mois, pendant 4 mois, il n'y a pas d'ordonnance militaire. Enfin, on n'a pas jugé bon de les revoir. On applique probablement celle de 1589.
Tout à fait.
Voilà. Oui, oui. Alors ça, c'est quand même assez, assez
différent. Mais tu vois, on les revoit, c'est vrai, parce qu'on ressent, ça fait partie des mesures.
Voilà.
Comme dit, c'est surtout de les imprimer. Et moi, je pense, mais c'est un avis, je ne peux pas le prouver, que si on a fait une modification, ce qui est probable, c'est l'ajout du dernier article. C'est l'article qui, justement, dit qu'il faut les donner. Donc, on a un papier en main, on les lit aux soldats.
Et les soldats, bulletins, les contributions qui commencent à arriver. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. En 1589 jusqu'en 1993, il y a aussi du bulletin, il y a aussi des contributions. Il y a la conquête du Bridges, avec des mains. Donc, c'est moins bien réglé, effectivement, qu'en 1603, parce qu'il y a probablement alors une question humanitaire, où j'ai vu qu'il y a moins en 1603, mais c'est plus court, en 89, et ça continue en 90 et 91, il y a des procès qui sont faits à des soldats et à des même à un ou deux officiers qui ont violé les ordonnances militaires, les ordonnances de la guerre. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est là qu'on peut essayer d'appréhender un petit peu la sensibilité du temps vis-à-vis de populations civiles. Hein, papa.
Alors, on a un problème à ce moment-là, c'est qu'on a des troubles dans
les
registres de la justice criminelle. On n'a pas de procès en 1602, 1603, ou peut-être une exception, mais enfin pas de ça.
Et puis alors, l'autre chose qui apparaît assez nettement dans ta réflexion, et qui est très juste, ça me te dit, c'est que le Conseil de guerre, établi en 1603, a le même nombre de gens que celui de 1589, avec peut-être le fait qu'en 1589, on invite les chefs français, mais ils ne sont pas officiellement membres du Conseil de guerre. Mais tu dis très bien qu'on limite ses prérogatives vis-à-vis des autorités normales. Et alors, à mon avis, c'est dû à deux choses qui sont différentes, mais très bien. C'est que le Conseil de guerre de 1589, on a reproché après, mais tout de suite après, que les 7 personnages membres du Petit Conseil qui en faisaient partie étaient au fond devenus des sortes, on n'emploie pas le mot, mais de dictateurs. Et que même les autres membres du Conseil d'État, du Petit Conseil, étaient tenus à l'écart de décisions importantes. Et ça, il y a des problèmes de gouvernance, comme on dirait aujourd'hui, importants qui ressortent. Donc, en 1603, où je pense, je n'ai pas fait le calcul, mais que la moitié des membres du Petit Conseil, ou en tout cas un petit conseil, comme manque des deux sens, on s'en souvient. Puis alors, l'autre chose, c'est, à mon avis, on voit apparaître déjà cette manifestation qu'on voit très bien lors du Conseil général du début 1603 et qui va se continuer toute l'année, que les citoyens, on ne peut pas dire le peuple, je le vois parce que les citoyens, c'est une minorité, sont pas tout à fait contents du traitement de l'escalade par toutes sortes de membres du petit conseil. Il n'y a pas seulement Philibert Blondel qui, en tout cas au début de 1603, conserve son influence, mais il y en a d'autres, il y a des rivalités. Et c'est là que commence, très rapidement, en 2 ans, une influence beaucoup plus grande du conseil des 200 qui va rester durant tout le XVIIe siècle, qui va non plus seulement avoir l'appel suprême en matière de droit pénal, mais également en matière de droit civil, et surtout, ça sur les 6 premiers mois de 1603, je ne pense pas que ce soit très important à mon souvenir, moi j'ai fait, hein, mais qui va surtout obtenir le droit de faire des propositions. C'est-à-dire des propositions, c'est une sorte de motion ou de résolution que les membres du Conseil des 200 adressent au Petit Conseil. Et c'est très intéressant, ces propositions, dites proposites, parce qu'elles permettent de sentir un peu l'opinion publique et quels sont les points. Alors, il y a des points tout à fait triviaux. Il faudra surveiller l'augmentation du prix du blé, pour que le pain n'augmente pas. Il faudra veiller à ce qu'on introduise que le vin des bourgeois venu de Savoie, et pas du vin qui est des terres genevoises en Savoie, pas d'autres propriétés pour faire grossir. Et puis vous avez d'autres propositions un peu plus vastes. Il faudra penser à revoir nos fortifications. Il faudra... Et ça, tout ça démarre. C'est la conséquence ignorée souvent pour Genève de l'escalade directe. Et au fond, je ne veux pas dire qu'on a coupé les ailes du nouveau conseil de guerre, mais on a beaucoup mieux cadré ces prérogatives parce qu'on avait le souvenir de celui qui avait eu lieu 14 ans plus tôt, et puis de cette espèce de secousse populaire après l'escalade, le grondement populaire qui amènera finalement la chute de Philibert Blondel et de ses partisans, parce qu'il n'est pas tombé tout seul, même si c'est pratiquement le seul qu'on a exécuté immédiatement. Encore en 1610, il y a des gens qui sont condamnés, donc 8 ans après l'escalade et après la mort de Blondel, pour avoir soutenu Philibert Blondel après l'escalade, etc. Mais vraiment, c'est tout à fait intéressant de voir comment ces ordonnances ont pu continuer. Alors, la grande chose, tu n'as pratiquement, à part au début, en parlant du texte imprimé, pas parlé de viol.
J'ai pas de traces.
J'ai
pas de traces à Saint-Genis, à
ce soir. Et qui sont poursuivis. Les autorités genevoises, parce qu'évidemment, la moitié de la population, ce sont des femmes, et elles subissent la guerre de façon très dure, parfois plus que les hommes.
Mais on peut penser là qu'il y a quand même une application.
Notamment les jeunes filles, déjà.
Comme justement, en 1589, il y a eu des condamnations, Et il y a une retenue qui est sans doute supérieure, mais je n'ai pas vu non plus de la part des Savoyards, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais il y a quand même, me semble-t-il, globalement, ils ont mené la guerre de façon moins cruelle qu'en 1589. Il y a eu aussi de leur côté des garde-fous. Au fond, ils ne souhaitaient pas la guerre. Hein. Je veux dire, soit on prenait Genève, on ne l'a pas prise, bon... Bâchons le plus vite possible en espérant que le roi de France ne s'en mêle pas. En gros, c'est ça. Donc, il y a une certaine retenue. Ça a peut-être faire, enfin, comme je l'ai expliqué, que le traité de Saint-Julien interdisait qu'on rappelle les mauvais souvenirs, cette guerre, au fond, est assez ignorée. Pas de grande bataille, à part l'escalade. Pas de, voilà, à part l'opération de Saint-Genis, qui était très osée, on peut le dire. C'est une guerre, au fond, inconnue. Ce qui est d'autant plus étonnant que c'est la dernière guerre menée par la République comme belligérante principale. Les deux seules guerres qui ont suivi, c'est quand on envoie 300 hommes de secours à Berne et Zurich aux deux batailles de Villemergen, mais c'est rien en comparaison, n'est-ce pas? C'est tout. Donc cette dernière guerre de la République, elle est passée à l'as. Et tout ce que je vous ai raconté là sur les mesures prises, c'est écrit nulle part. Hein. Je vous dis que tout ça, c'est de l'inédit. Je l'ai découvert, enfin, je n'ose pas imaginer avoir le premier à avoir découvert. Alain Dufour a dû voir tout ça bien avant moi, mais il ne l'a pas écrit. Ah,
nous prépare une publication, je pense.
Écoute,
de ces trouvailles-là.
D'abord, première publication, le journal des Aïcoladons. Ils sont toujours en train de composer. Ça dure des mois, je deviens fou. Bon, il faudra faire les index. Donc j'espère sortir en octobre-novembre. Je ne sais pas si on va y arriver. Ensuite, mes récits de l'escalade. Parce que c'est quand même ça, tout était parti de là. Hein. Il y a toute une classification, une typologie des récits de l'escalade à faire. Et quelque part, une nouvelle histoire de l'escalade à écrire. Et puis, alors, ensuite, c'est la guerre 1603. Ça serait, voilà, ça serait un troisième livre, pas le deuxième, ni le premier. Bon. Donc, je sais pas, on verra. Donc.
Encore une question, si je peux, cette guerre de 1603. On a de la peine à se représenter, parce qu'on a l'impression que c'est une série d'opérations économiques pour tirer plus possible d'argent du territoire qu'on contrôle. Est-ce qu'elle a joué un rôle sur le traité de Saint-Julien ?
Oui, bien sûr. Non, bien sûr, parce que dans l'optique du duc, il peut faire beaucoup de mal à Genève en s'entraîner les choses. Il fait traîner indéfiniment. C'est Genève qui en souffre, c'est son économie qui est ruinée. C'est une ville qui a besoin de liberté économique. Alors on a la France, heureusement. Ça, c'est évidemment la grosse différence avec la situation géopolitique de 1589. On a une frontière avec la France. Ça change beaucoup de choses. Mais néanmoins, Genève risquait d'être saignée économiquement par cela. Et surtout, si le roi de France et les alliés suisses se lassent. Le duc, il jouait un peu là-dessus. Il espérait que ça... Il savait, en fait, il était renseigné, il savait que... À Berne, on commençait à dire, voilà, ça commence à bien faire, etc. Il le sait. Mais ce qui se passe, c'est probablement qu'à partir du mois de juin, quand on lui impose la médiation, et que Dalvigny lui dit, parce que ça, on a les documents, hein, il lui dit, il faut bâcher, ça ne va plus, on n'en peut plus. Là, il décide de le faire, mais alors de mauvais cœur. Hein, alors vraiment, il se fait tordre le bras. Hein. Et puis, il ne cache pas que pour lui, c'est un chiffon de papier qui vaut rien. Hein. Il s'en cache pas. Donc, il réessayera à la première occasion. Puis, si c'est pas moi, c'est mes enfants. Hein. Il le dit. Il est tout à fait franc là-dessus. Hein. Il a une dent contre les Genevois, ça c'est clair. Au fond, donc la guerre, oui, le fait que les Genevois aient pu avoir, grâce à la France, grâce à Berne, Zurich, les ressources, ont pu montrer qu'ils pouvaient faire des opérations, ont pu, n'est-ce pas, s'ils étaient cantonnés derrière leurs murailles, ça aurait duré indéfiniment. Le duc de Savoie aurait copieusement ravagé les sujets de Genève quand il voulait. Et puis on continue, et puis du reste, on a des textes, même après le traité de Saint-Julien, je pense, j'ai regardé récemment, tu les connais, le cavalier savoisien, ce genre de choses auxquelles répondra le citadin de Genève, puis tu as aussi des pièces comiques, entre guillemets, des chansons, on menace Genève d'une guerre éternelle, n'est-ce pas? Donc rendez-vous, donnez-vous au duc, soyez ses bons sujets, et pas ses rebelles, sinon vous aurez une guerre permanente. Hein, c'est ça qu'on présente à Genève. Donc les Genevois, dans les années qui suivent, ils sont bien contents que le roi de France paye 300 hommes de garnison. En permanence pendant presque 20 ans, il les paye. plus d'un million de florins que le roi de France va payer. C'est des sommes colossales. Non, oui, c'est énorme.
Henri IV, réussit.
Encore. Alors d'abord la régence. Et puis alors, bon, je croyais que quand Louis XIII prend le pouvoir personnellement à la mort de Concino Concini, donc en 1617, on disait qu'il avait arrêté, mais j'ai découvert qu'en fait ça continue un peu après. Encore quelques années, mais avec des sommes moins importantes. Puis je dirais que ça s'arrête après 1622. Après, ça s'arrête complètement. On va encore en 1627 voir le cardinal de Richelieu. Ah, mais on nous a promis, il faut payer. Bon, on tombe mal, on est en pleine guerre de La Rochelle. Alors là, il n'est pas très réceptif. Mais on est poli, on les écoute. Mais ils n'auront plus rien. Je dirais qu'à partir de 1622, en gros, ils n'ont plus rien. Mais ils ont jusque-là. Et des sommes, c'est impressionnant. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté plus qu'une heure sur cette petite chose. Merci beaucoup.